Eric, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 10h10 à Brasilia. La Copa América au Brésil, cette fois c'est sûr, début des matchs dimanche et malgré le Covid, le président Bolsonaro veut faire tomber les masques. Le tatétifi, ce test de virginité pratiqué par les familles en Haïti qui traumatise les jeunes filles, c'est le sujet du reportage lauréat du prix Philippe Chaffanjon 2021. Sa lauréate aujourd'hui est avec nous et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première Alix Léveillé, on sera en Guyane et en Guadeloupe.
Oui, avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane et puis cette histoire de LBD sur une conductrice en Guadeloupe.
À tout à l'heure Alex et bienvenue à tous.
RFI, o mundo mais perto de você.
Le Covid n'aura pas eu la peau de la Copa América. Le tournoi de foot sud-américain s'ouvrira bien dimanche, comme prévu, au Brésil. Dernier pays retenu après les désistements de la Colombie et de l'Argentine. En dépit des quelques 480 000 morts du Covid, la Cour suprême brésilienne hier a donné son feu vert à la tenue de la compétition, Martin Bernard.
Un sénateur avait surnommé la Copa América le championnat de la mort. L'opposition avait fait appel à la Cour suprême pour éviter le déroulement de la compétition en pleine pandémie. Mais finalement, 6 des 11 juges de la Cour suprême ont accordé leur feu vert à la Copa América en territoire brésilien. Avec quelques bémols cependant, une magistrate a évoqué les risques d'une Copa virus et demandé des mesures pour éviter la circulation de nouvelles souches. Le Brésil, qui enregistre près de 2000 morts par jour, redoute en effet le déferlement d'une troisième vague encore plus meurtrière que les précédentes. De plus, la décision de transférer cette compétition, qui aurait dû avoir lieu en Argentine et en Colombie, vers le Brésil, a été prise sans base scientifique, estime un autre juge. Il affirme toutefois qu'il n'est pas du ressort de la Cour suprême d'annuler la Copa América. Quant aux joueurs du 11 brésilien qui avaient esquissé un mouvement de révolte, ils ont finalement confirmé qu'ils participeraient bien à la compétition dès dimanche à Brasilia contre le Venezuela. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Et avant même cette confirmation, les joueurs engagés tenaient hier des conférences de presse. L'international argentin Rodrigo de Paul se veut optimiste malgré les conditions.
Nous allons essayer d'être là. Nous avons l'espoir de réussir une grande Copa América, être là du premier jusqu'au dernier jour. Évidemment, nous savons que les matchs se jouent souvent sur des détails et nous n'avons pas toujours prise sur eux. Mais l'idée est d'être un des acteurs principaux de la compétition, comme d'habitude.
Et en tout cas, une manifestation est prévue dimanche à Brasilia, en quelques heures avant le match d'ouverture. Et malgré tout, eh bien, Jair Bolsonaro, lui, continue sur sa lancée. Bonjour, Arim Lipold.
Bonjour, Michael. Bonjour à tous.
Le président, connu pour son discours anti-masque, a de nouveau exigé la levée des gestes de ce geste barrière. Et c'est un nouveau tollé.
Oui, lors d'une allocution à Brasilia, Jair Bolsonaro a annoncé un décret pour faire en sorte que le port du masque ne soit plus obligatoire pour ceux qui sont vaccinés ou guéris du Covid.
Désobligar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados.
Oui, vous pouvez entendre les applaudissements de ses sympathisants, Michael. Du côté du personnel médical, cette énième charge contre l'utilisation des masques a été vivement critiquée. Un infectiologue dénonce dans le journal Carta Capital le discours de la mort du président qui a qualifié le port du masque d'oppression. Enlever le masque serait une grave atteinte à la santé publique, poursuit l'infectiologue, tout en soulignant que le pays est en train de vivre le pic de la pandémie et que la plupart des unités de soins dans les grandes villes reste saturé. Le gouverneur de l'État du Piauí, Wellington Dias, accuse le président de jeter l'huile sur le feu avec ses propos. Dans une interview au journal Folha de São Paulo, il affirme obliger le port du masque dans son état.
Le Covid qui fait aussi la une de la presse colombienne, Arim.
Oui, en pleine mobilisation sociale, les chiffres sont à la hausse. Hier, le pays a enregistré un nouveau record de personnes décédées, 573, ce qui porte à plus de 94 000 le nombre de Colombiens morts du Covid-19.
De son côté, la presse américaine, elle revient sur la promesse du président Biden d'offrir 500 millions de vaccins aux pays les plus pauvres.
Oui, une décision saluée effectivement par la presse. Joe Biden montre que les États-Unis peuvent mener l'effort mondial de vaccination, écrit le Washington Post, en prenant le contre-pied de la stratégie d'Amérique d'abord, de son prédécesseur Donald Trump. Joe Biden, après avoir réintégré l'Organisation mondiale de santé, ne veut pas laisser le territoire de la diplomatie du Covid à la Russie et à la Chine. Les dons de ces vaccins et dans l'intérêt de Washington, souligne le journal, car une nouvelle vague mondiale serait aussi une menace pour les États-Unis.
Tout autre chose, Harry, Washington personnes qui regardent d'un œil inquiet ces deux navires iraniens apparemment en route pour le Venezuela.
Oui, selon le chef du Pentagone, cité par El Nacional, ces deux navires iraniens auraient chargé des armes destinées au Venezuela. Selon des sources anonymes citées par le site d'information Politico, le Makran et la frégate Sahand ont contourné l'Afrique et passé le cap de Bonne-Espérance avant de pénétrer dans l'Atlantique, ce qui est une première pour les navires de guerre iraniens. Toujours d'après Politico, le gouvernement américain a demandé aux autorités cubaines et vénézuéliennes de faire en sorte que les navires fassent demi-tour. Selon un haut responsable américain, Michael, les bateaux pourraient transporter des missiles de longue portée.
Et sans doute, on en reparlera. Donc, le décompte des voix de la présidentielle est terminé. Au Pérou, 50,2% pour Pedro Castillo contre 49,8% pour sa rivale de droite Keiko Fujimori, mais les résultats officiels ne sont toujours pas encore annoncés, Fujimori contestant le décompte, ce qui n'a pas empêché déjà Pedro Castillo de recevoir les félicitations de l'Argentine, du Nicaragua et de la Bolivie.
Y quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy...
Et on l'entend là, hein, Pedro Castillo, saluer ses dirigeants politiques qui, dit-il, ont pris le temps de reconnaître et de dire qu'il est bon que le peuple se soit réveillé. Enfin, on ne pouvait pas terminer, Harim, sans parler du sauvetage qui a tenu tout le Mexique en haleine hier, le sauvetage de deux chiens.
Eh oui, effectivement, enfin une bonne nouvelle qui nous parvient du Mexique. Spey et Spike étaient tombés dans un gouffre géant. Ils ont été repérés par des drones, des images assez impressionnantes, spectaculaires et devenues virales et qui ont suscité du coup une énorme compassion nationale pour le destin de ces deux animaux. Un secouriste a pu remonter Spey et Spike hier à l'aide de cordes et appuyé par plusieurs camarades. Ils sont donc sauvés, s'exclame aujourd'hui le journal Milenio en publiant un récit complet de l'opération de sauvetage.
Et les vidéos, en effet, sont impressionnantes. Merci beaucoup, Harim Lippold. Il est 9h17. À Port-au-Prince, on prend tout de suite la direction de la capitale haïtienne.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et c'est une consoeur qui est en ligne avec nous, Laura Louis, lauréate du prix Philippe Chaffanjon 2021, qui récompense le meilleur reportage multimédia haïtien. Bonjour Laura.
Bonjour Michael.
Félicitations d'abord pour ce prix, on imagine que vous êtes très heureuse.
Oui. Et merci à RFI, merci à vous aussi.
Un prix que vous partagez avec la photographe Valérie Berisville. Ces photos illustrent votre article, les Philiciens Casimir, qui signe lui les vidéos qui enrichissent le texte. À découvrir sur le site Aibopost, un article intitulé « Tatétifi, le test de virginité qui traumatise les femmes en Haïti ». En quelques mots, Laura, expliquez-nous en quoi consiste cette pratique que vous décrivez dans votre reportage.
C'est une pratique, une vieille pratique qui consiste à insérer le doigt ou la pointe d'un œuf dans la partie intime d'une fille, dans son vagin, pour tester si elle est vierge. Parce que pour beaucoup de parents, la virginité est une fierté. Donc, on a essayé, à Ibopos, on a essayé de dévoiler cette pratique qui n'a aucune fiabilité scientifique, mais aussi qui laisse des séquelles douloureuses aux filles qui l'ont subie.
Je me rappelle la première fois, ça arrivait de...
La première fois qu'on m'a tâtée, je venais tout juste d'avoir mes premières règles. Et je revenais de l'école un peu plus tard que d'habitude. Parce qu'à l'époque, je jouais au volleyball dans l'établissement. Mon père m'a engueulée quand je suis rentrée. Ma mère m'a demandé de me coucher. Et elle a vérifié mon entrejambe. C'est quelque chose de très gênant. Je me suis sentie sale. Parce que c'est très gênant d'avoir ta mère qui t'écarte les jambes pour voir si tu es vierge. Je ne peux pas compter le nombre de fois que cela m'est arrivé. Si c'était 5, 10 ou 15 fois, cela m'est arrivé tellement de fois que je n'arrive même plus à compter. Si je fais quelque chose que ma mère n'aime pas, elle peut décider qu'elle va faire ma toilette intime et si je refuse, elle me fouette. Donc je suis obligée d'accepter.
Témoignage de Sergile Saramène, jeune femme de 27 ans, à découvrir donc dans l'une des vidéos qui accompagne vos mots, Laura. Pourquoi avoir choisi ce sujet?
Je l'ai choisi parce que je n'ai jamais vu un travail sur ce test scientifique ou un reportage ou juste un post ou une publication sur les réseaux sociaux. On n'en a jamais parlé. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer le débat? Pourquoi ne pas interroger les femmes femmes qui ont subi ce test, celles qui le font subir à d'autres. Et aussi la spécialiste, qu'est-ce qu'elle pense de ce test ?
Oui, on va y revenir. Avant, Laura, je voulais vous demander, j'imagine que cela n'a pas été facile de travailler sur ce sujet, de recueillir des témoignages ?
Oui, ça n'a pas été facile parce que je ne connaissais pas vraiment des femmes qui avaient connu ce test. Donc, il fallait lancer un appel sur Facebook. Et là, j'ai eu pas mal de réactions de femmes qui ont subi ce genre de test. Et 6 d'entre elles ont accepté de témoigner, mais une seule a voulu s'identifier.
Une seule, oui, qui a bien voulu témoigner sous son vrai nom.
Et pour avoir, puisque ça devrait être un reportage multimédia, on a lancé un autre appel pour mettre des visages sur les témoignages.
Et c'est ainsi que l'on découvre le visage et le témoignage de Rita Léonard, aujourd'hui âgée de 57 ans.
Ça fait qu'on a fait ça et parce que c'est une fierté pour les parents.
On faisait ce genre de test parce que c'était une fierté pour les parents quand leur fille se mariait vierge. C'était une fierté, une belle chose pour cette famille. Il y avait une belle alliance entre ma famille et celle de l'homme. Ils considéraient que ma mère avait des principes parce qu'elle nous a bien gardés.
Ce mythe de la virginité, Laura, quelle est aujourd'hui son importance dans la société haïtienne ?
Le mythe de la virginité a encore une grande importance ici en Haïti. Peut-être que ce mythe n'est pas aussi important qu'il l'ait été temps de cela, mais on honore encore les femmes qui restent vierges jusqu'au mariage. Surtout dans certaines communautés religieuses, on encourage les femmes à garder leur virginité jusqu'aux nuits de noces. Et donc, même si on a l'impression que maintenant la parole est en train de se libérer par rapport à tout cela, par rapport à la sexualité des femmes, avec les nouvelles technologies des formations et de communication, mais il y a encore ce mythe de virginité qu'on essaie de garder et dans les familles.
Et donc, ça veut dire, Laura, que cette pratique du tâter tes filles est toujours d'actualité ?
Oui, malheureusement. Peut-être que ça, on ne va pas dire que c'est un sujet d'actualité que l'on fait à toutes les familles, mais ça se fait. Il y a 2 professionnels qui ont intervenu dans notre article. Elles nous ont déclaré qu'il y a des parents, bon, s'ils ne font pas ce genre de test, ils les emmènent voir le gynécologue. Donc c'est le gynécologue qui va tester la virginité de la fille.
Ce que refuse à faire la gynécologue, Rodrine Janvier, que vous avez interrogée, elle souligne aussi évidemment les graves conséquences de ces pratiques. Écoutons-la.
Le fait qu'elle a subi dans le temps ce genre de pratique de la part de membres de sa famille, elle a un certain retrait par rapport à la pénétration. Et dès qu'il y a pénétration, elle ressent de la douleur, ce qui rend difficile et pratiquement impossible le rapport sexuel avec la personne concernée.
Des conséquences similaires à celles qui ont subi un viol. L'une de vos témoins, Joanne Dolbrun, d'ailleurs, ne dit pas autre chose.
Pour moi-même, c'est comme un viol que maman m'a fait sous moi parce que...
Pour moi, c'est comme un viol. Et c'est là que je me suis posé des questions. J'ai toujours ces 2 questions. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Et si elle ne m'avait pas trouvée vierge quand elle m'a tâtée, qu'est-ce qui se serait passé? Ces questions demeurent toujours sans réponse dans ma tête.
Toujours bien 2 questions dans ma tête, moi, qui sans réponse.
Laura, on parle là clairement de pratiques incestueuses.
Oui, bien sûr, parce que peut-être que l'intention n'est pas incestueuse en soi, parce que les familles et les parents, quand ils font ça aux enfants, pour eux, Ils font du bien à leur fille parce qu'ils veulent que leur fille reste vierge pour que leur fille puisse être respectée par les familles du mari qu'elles auront. Et donc pour eux, c'est bien.
Laura, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des dispositions dans la législation haïtienne pour bannir cette pratique ?
Non, malheureusement, il n'y a aucune disposition légale et en Haïti qui punit cette pratique de tester la virginité des filles. Non, malheureusement.
Alors que, et vous terminez là-dessus, hein, aujourd'hui, la situation sécuritaire en Haïti fait que le risque de viol est accru. On ne peut donc pas juger une femme violée qui aurait ainsi perdu sa virginité. Merci beaucoup, Laura Louis, lauréate du prix Philippe Chaffanjon, avec Valérie Berisville et Félicien Casimir, félicitations encore à vous. Votre article Tatétifi, le test de virginité qui traumatise des femmes en Haïti, à lire sur Haïbo Post. Et on continue dans la série des prix avec une autre lauréate, Alejandra Parra, qui remporte le prix 2021 RFI reportage en espagnol. Étudiante vénézuélienne, Alejandra a tourné dans le nord de la Colombie son reportage intitulé « Des corps sans patrie » qui nous raconte les dangers auxquels s'exposent les migrants vénézuéliens qui franchissent la frontière colombienne. Face aux assassinats de plus en plus fréquents, la fondation « Des gens comme nous » a décidé d'offrir à ces migrants tués des funérailles. Sonia Bermudez est la fondatrice.
Dans mon cimetière sont enterrés près de 600 migrants vénézuéliens, adultes et mineurs. Je leur ai offert une sépulture digne. Pour moi, la mort n'a pas de nationalité. Nous sommes tous égaux, ce sont par conséquent des gens comme nous. L'indice de mortalité des migrants vénézuéliens à Maicao, dans le département de la Guajira, en Colombie, à la frontière avec le Venezuela, a décollé. Ces Vénézuéliens n'ont personne pour les aider à s'occuper de leurs proches décédés. Avec la fondation des gens comme nous, je me suis consacrée à offrir une assistance funéraire à toutes ces personnes, car tous les êtres humains méritent une mort digne, sans distinction de classe, de religion ou de politique.
Sans distinction de classe, de credo ni de politique.
Des propos recueillis par Alejandra Parra, donc prix 2021 RFI du reportage en espagnol.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous Alex Leveillé, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Hier c'était le 10 juin en Guyane, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Et comme chaque année, le MIR, Mouvement International pour la Réparation, a marché 11 kilomètres de la commune de Rémire-Montjoly jusqu'au chef-lieu Cayenne, l'Indinédan de Guyane la première.
Le giratoire Adélaïde Tablon, lieu choisi en ce 10 juin pour commémorer l'abolition de l'esclavage. 20 ans après la loi Toubira, l'ancienne garde des Sceaux se comptait parmi les officiels pour le dépôt de gerbes.
Il y a une vingtaine d'années encore, ça n'était pas d'entendre d'une façon générale dans la société guyanaise que ce territoire a été profondément marqué par un peu plus de 2 siècles de traite négrière et d'esclavage, que les Amérindiens en ont souffert, que tout le territoire porte encore les traces et les stigmates de cette histoire et qu'il faut l'assumer.
Après cet instant solennel, Christiane Toubira salue les membres du mouvement international pour les réparations. Ils entreprennent de leur côté une marche de 11,5 km direction Cayenne pour la place des Chênes Brisées, marquant ainsi 173 ans de résistance. Apa Mounia Makeba, président du MIR.
Le combat n'est pas fini, pas même nous perdit, nous, dans les balbutiements.
Une marche symbolique pour rappeler également la notion de liberté dans un territoire sous couvre-feu depuis plus d'un an.
Et en Guyane, voilà l'Indinédan de Guyane la première. Et en Guadeloupe, samedi dernier, une femme, Sylvie, rentre chez elle. Sur le chemin, elle va essuyer un tir de lanceur de balles de défense de la part d'un gendarme. La gendarmerie affirme qu'il s'agissait d'un tir dissuasif lié à un refus d'obtempérer. Claudia, le désert de Guadeloupe la première.
Vers 22h samedi dernier, Sylvie rentrait chez elle après son service. Au niveau du radar de la Jaille, elle voit des gyrophares et 3 gendarmes portant un gilet réfléchissant. Leur voiture était visiblement arrêtée sur la voie de droite.
J'ai dit peut-être qu'il y a eu un accident. J'ai dit, c'est pas un barrage, c'est pas un truc de contrôle. Donc je me mets, positionne sous la voie de gauche. Donc j'avançais doucement et subitement, j'entends un bruit sous mon pare-brise.
Choquée par l'impact, Sylvie arrête son véhicule.
Je vois un gendarme habillé tout de noir avec l'arme à la main, vers moi. Donc c'est là que j'ai compris qu'on m'a tiré dessus. Il a récupéré sa balle, puis il m'a dit que de la chance, ce n'est qu'une balle, c'est du caoutchouc, c'est une vraie balle, je serais morte.
Un autre gendarme lui aurait ensuite demandé ses papiers et posé des questions, lui signifiant qu'elle était sur les lieux d'un accident.
J'ai dit, mais comment je peux rentrer? Ma voiture, mon pare-brise est brisé, je peux pas rentrer comme ça. Il m'a dit, vous voulez doucement et vous entrez.
Sylvie est donc rentrée chez elle jusqu'à Pointe-Noire. Incapable de reprendre le travail, elle est en arrêt pour 5 jours. Sylvie a depuis porté plainte contre le tireur. Contactée, la gendarmerie parle d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier et justifie le tir de LBD comme un moyen proportionné dans ce cas de figure. Une enquête a été ouverte par le parquet de Pointe-à-Pitre pour comprendre dans quelles circonstances le tir a eu lieu.
Claudia, le désert de Guadeloupe la première et c'est la fin de cette édition. Bon week-end à tous.
Merci Alex, bon week-end à tous. Carrefour de